Ok, très bien. Donc il nous restait un tout petit bout de ce 12e chapitre des Actes des Apôtres, et qui concerne donc la fin d'Hérode. Mmh. Et pour rappel, avant qu'on fasse la lecture, donc on a vu que Hérode Agrippa Ier avait tenté de décapiter l'Église, en tout cas la classe dirigeante de Jérusalem, et dans l'idée que ça allait décimer le mouvement messianique. Hein, si on en élimine quelques-uns à la tête, tout va s'écrouler. Et bien sûr, sa violence, puisqu'on peut parler comme ça, hein, quand même fait assassiner Jacques, qu'on a décapité, sa violence et son orgueil vont le conduire à sa perte. Voilà. Donc si quelqu'un veut faire la lecture des 5 versets, donc à partir du verset 20 jusqu'à la fin du chapitre.
Hérode avait, avec les gens de Tyr et de Sidon, un litige irritant. Ceux-ci tombèrent d'accord pour se présenter devant lui. Avec l'appui de Blastus, le chambellan du roi, qu'ils s'étaient acquis, ils sollicitèrent une solution amiable. Le ravitaillement de leur territoire venait en effet de celui du roi. Au jour convenu, Hérode, portant son vêtement royal, avait pris place à la tribune et prononçait la harangue officielle, tandis que le peuple l'acclamait. C'est la voix d'un dieu et non d'un homme. Mais soudain, l'ange du Seigneur frappa Hérode, n'avoir pas rendu à Dieu la gloire, et dévoré par les vers, il expira. La parole de Dieu, cependant, croissait et se multipliait. Quant à Barnabas et Saul, ils en revinrent, une fois assurés leur service en faveur de Jérusalem. Ils ramenaient avec eux Jean, surnommé Marc.
J'ai un mot que je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as au début du verset 21? À un jour.
Au jour convenu.
Au jour convenu.
Convenu, hein, d'accord.
Oui.
Tu as quoi dans ta version?
Au jour fixé.
Oui, oui.
Bon, ça va être la même chose.
C'est vraiment en français.
Okay. Ok. Alors, je vais vous demander d'abord un petit travail de géographie, de géopolitique.
Voilà, j'ai pris ma carte. Voilà,
qui était d'essayer d'identifier un peu ces villes de Tyr et de Sidon.
Ouais, c'est facile.
Syrophénicie, donc un voilà. Territoire qui se trouvait au nord-ouest de la Galilée.
Voilà.
Tout proche de la Galilée, en fait. Donc, on pourrait même parler d'une bande côtière, du littoral. Donc ce littoral extrêmement pauvre, il n'y a quasi rien comme ressource, et en plus, Tyr et Sidon, qu'est-ce que c'est?
C'est des ports, j'imagine.
Oui, c'est des villes portuaires.
Hein. C'est pas si pauvre que ça. Est-ce que c'est des ports?
Oui, non, mais il n'y a pas de quoi bouffer.
Ah, il n'y a pas de...
Ah, oui, c'est ça le problème.
Mais oui, c'est
il n'y a pas d'agriculture, il n'y a rien à part de l'eau et des rochers.
Et des poissons.
Et des villes, et des... Voilà, et par contre, il y a une pêche. Effectivement.
Oui. J'ai vu qu'il y avait aussi. Ils commerçaient beaucoup dans les objets.
Exactement. Donc des grands marins, les Phéniciens.
Ce sont des Phéniciens. Objets surtout, hein. pas de la nourriture.
Oui. Mm-hmm. Non, eux achetaient de la nourriture, mais eux vendaient, ou troquaient, peu importe, mais vendaient beaucoup de choses manufacturées. Notamment, je pense à Tyr, c'était surtout le travail du pourpre. Donc, de tissus et de teintures. Mais ils commerçaient aussi de l'ivoire qui venait d'assez loin. Donc, il y avait des territoires style Arabie qui commerçaient avec eux. Donc, on voit que c'était... Et puis, c'est des marins qui ont fait le tour toute la Méditerranée. Pour eux, ils n'avaient aucun secret, quoi. Ils avaient d'ailleurs des villes, des espèces de colonies, tout le tour du bassin méditerranéen, dans lesquelles ils vendaient, justement... ce qu'ils pouvaient acheter eux-mêmes ou transformer eux-mêmes. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ces villes? Est-ce que vous avez trouvé autre chose? Donc, Tyr, c'était quand même une ville très commerciale. On pourrait même parler de commerce international. Et elle était dotée de deux ports. En fait, il y avait une espèce de... Il y a eu une période où il y avait une île, si vous voulez, en face de la côte. Et dans cette île, il y avait un port au nord de l'île et un port au sud. Le port au nord s'appelait le port sidonien, puisqu'il allait vers Sidon, tandis que celui du sud s'appelait le port égyptien. Et puis petit à petit, la baie s'est comblée, et donc l'île, on ne sait pas si c'était naturel ou pas, si c'est les hommes qui ont comblé, mais donc après, ça a été rattaché au continent, mais il y a toujours eu deux ports. Donc ça, c'est pour la ville de Tyr, et Sidon est aussi un très grand port. Et donc les deux villes sont riches de leur commerce, en fait, et de leur expansion dans les autres territoires autour du bassin méditerranéen. Dans la Bible, ce sont des villes très connues.
Oui, il y a tout un chapitre.
Sur Tyr, il y a des dizaines et des dizaines de références bibliques, et notamment des chapitres entiers consacrés, ou des chapitres prophétiques consacrés à Tyr. On a aussi pas mal d'infos sur Sidon, entre parenthèses, Sidon qui aurait été créé par le fils, fondé par le fils de Canaan. Donc le petit-fils de Noé aurait créé cette ville. Voilà, voilà. Enfin, c'est dans la Genèse, hein, Genèse 10, pour être précis. Donc voilà plus ou moins ce qu'on pourrait dire. Maintenant, les villes en elles-mêmes, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer en lisant les Actes, sont assez distantes l'une de l'autre. Il y a quand même 40 km entre les deux villes. Mm-hmm. Donc on se rend compte alors que l'association qui va vers Hérode, c'est quand même pour des raisons graves. Deux villes distantes de 40 km ne s'amusent pas à se mettre ensemble pour aller revendiquer leurs droits ou je ne sais trop quoi auprès d'un roi étranger par-dessus le marché. Hein. Tyr a aussi été la capitale de la Phénicie pendant longtemps. Peut-être parce que c'était la ville la plus riche, je n'en sais rien. Mais voilà. Donc on peut se dire que les Phéniciens ont quand même marqué le bassin méditerranéen par leur culture, leur savoir, mais aussi leur commerce. Et puis le fait que c'était d'excellents marins, un peu comme les Bretons, si vous voulez, d'excellents marins. Voilà, mais du coup, on ne sait toujours pas pourquoi il y avait ce litige. Je ne sais pas ce que vous avez dans vos bibles. Nous, dans la Tob, on a un litige irritant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et vous avez quoi dans vos versions?
Disposition hostile.
Oui, disposition hostile.
L'arbitre, il était très irrité.
Oui. Mais en fait, littéralement, si on traduit le grec, c'est qu'il était furieux. Donc Hérode est furieux, très irrité, très en colère, avec de mauvaises dispositions vis-à-vis des Tyriens et des Sidoniens.
Oui, et donc, c'est Hérode...
Non, Agrippa.
C'est Hérode Agrippa.
C'est le troisième Hérode.
Ben oui, parce qu'entre les deux, il y a Hérode Antipas.
Exactement.
Mais qui n'a pas été roi, lui. Il était tétrarque, mais il n'a pas été roi.
Oui, c'est lui qui a hérité le plus de territoire, en fait, notre cher petit Agrippa Ier. Donc, en fait...
Il était furieux pourquoi ? On ne dit pas.
Tu dis ?
On ne dit pas pourquoi il était furieux.
Ah ben, on va essayer de comprendre, justement.
Oui, j'essaie de comprendre.
Donc, en tout cas, la locution grecque est utilisée, c'est... Ça marque une colère assez violente, avec de très mauvaises dispositions à l'égard des gens envers qui je suis en colère. Furieux contre ces deux villes. Alors, est-ce que vous avez trouvé une raison dans le texte? Est-ce qu'il y a une raison?
Ben non, justement.
Ça doit être historiquement...
Il ne payait pas leur facture ou quoi?
Ça doit être historiquement, vraiment, je ne sais pas.
En tout cas...
Au verset 20.
Fin du verset 20, on trouve une petite indication.
C'est bien d'accord pour se présenter devant.
Le ravitaillement de leur territoire venait en effet de celui du roi.
Donc ça, c'est une indication. On essaiera de voir ce qu'on peut en faire.
En grec, c'est la subsistance, hein, de tirer subsistance.
En tout cas, ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que Tyr et Sidon n'ont rien à voir avec les États administrés par Hérode. Donc c'est vraiment deux pays distincts, si vous voulez.
C'est des étrangers.
C'est des étrangers. Et à l'époque donc d'Hérode, ces deux villes-là sont sous administration romaine. Donc dépendent des Romains. Et donc, lui est en colère contre ces deux villes. Mais par contre, il ne peut pas se payer le luxe de les attaquer. Parce que justement, c'est des possessions romaines. Donc, il se garde bien de jouer à ce petit jeu, hein, d'être fou au point d'aller les encercler, les assiéger.
Mais parce que Hérode, il est roi romain.
Grâce aux Romains.
Mais oui, c'est ça.
Oui, oui. C'est le petit copain des deux derniers empereurs. Il a été élevé à la cour de Rome. Donc lui, il n'a pas intérêt à faire le malin, parce que tout son pouvoir dépend finalement du bon vouloir des Romains. Même s'ils sont ami-ami pour l'instant, en tout cas.
Mais d'origine, il est juif.
Oui, demi-juif. Oui, oui. À moitié édomite et à moitié juif, par sa grand-mère, je crois. Et donc, alors on va essayer d'avancer pas à pas. Au verset 20b, on nous dit « Ceux-ci tombèrent d'accord », donc les deux villes, « ceux-ci tombèrent d'accord pour se présenter devant lui ». Bon, ça dépend des versions, mais en gros, ils s'associent pour aller défendre leur cause au sujet de ce fameux litige. Et ça doit être quand même un litige suffisamment important que pour que les deux villes se sentent concernées et osent s'adresser au roi. Par quel artifice le font-ils ?
Blastus.
Alors, notre ami Blastus. C'est qui ce Blastus ?
Chambellan. Chambellan et Rose.
C'est quoi un chambellan ?
Ah, j'ai regardé dans le dictionnaire.
Ah oui, ça vaut la peine quand même.
C'est quelqu'un qui s'occupe de la chambre.
Voilà. Il est au service de la chambre du roi. Mm-hmm. Avec tout ce que ça peut vouloir dire, en même temps de proximité, d'intimité, hein, parce que ça va de la toilette royale en passant par ce que je ne vais pas dire, mais aussi par toutes les visites qui se font auprès du roi. Et donc, lui, il gère un peu tout ça. C'est aussi pas seulement le gestionnaire dans le sens des contacts, mais aussi le gestionnaire sur le plan financier de tout ce qui tourne autour de ça. Et en général, les chambellans étaient plutôt des hommes, des officiers, très souvent. Des gens qui connaissaient aussi le maniement des armes, etc. Ici, on ne nous le dit pas, mais on peut imaginer. Et puis, il a un prénom comment ?
Romain.
Ah, tout à fait,
oui,
romain.
Ça, oui.
Alors, ça ne veut rien dire, les amis. Oui. On a déjà vu que des juifs portaient des prénoms romains, comme Marcus, la dernière fois. Donc voilà, c'est pas impossible. Mais en même temps, ce ne serait pas du tout étonnant que ce soit réellement un romain, parce qu'Hérode était un familier, justement, de Rome et de la cour de Rome. Donc pour lui, avoir un romain officier à son service, c'est pas un problème non plus. Il est de toute façon à moitié juif. Voilà. Non, en tout cas, on a un bonhomme qui s'appelle Blastus et qui a donc, il est préposé au service de la chambre du roi. Et il passe par lui pour la raison que tu as évoquée tout à l'heure, Guy. Hein, c'est qu'ils savent que c'est l'homme le plus proche, l'homme de confiance, le confident du roi. Et donc, ils entrent par là, certainement pas en ayant soudoyé Blastus, mais en demandant à Blastus de faire le nécessaire pour obtenir une audience et commencer des tractations avec Hérode pour en finir avec le litige, hein, en gros. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on nous indique, comme tu l'as lu tout à l'heure, que la seule hypothèse qu'on a, nous, pour comprendre ce qui se passe, c'est cette histoire de ravitaillement. Donc, il semble que le ravitaillement des territoires de Phénicie passe par les États gérés par Hérode. Or, mes amis, si vous avez fait une petite recherche, vous aurez trouvé que déjà dans l'Ancien Testament, la Phénicie dépendait d'Israël, ou de Juda, peu importe, hein, quand il y a eu la division en deux royaumes. Mais donc, toute la Phénicie ne peut vivre et survivre que grâce aux ventes et aux trocs et aux échanges contre céréales, viande, fruits, etc., etc., venant d'Israël, venant notamment de la Galilée, qui est le territoire le plus proche, pour pouvoir vivre eux, voilà. Parce que sinon, ils n'ont rien localement. Et donc, on imagine, et ça c'est déjà un début d'hypothèse, que le fin fond des choses vient de cette histoire de ravitaillement, qui ne se fait plus apparemment, hein, puisque si on nous en parle, c'est qu'il n'a plus lieu. Alors, le verbe utilisé ici pour parler de ce qui se passe, c'est le verbe trépho en grec qui signifie se nourrir, tirer sa subsistance. Donc on voit bien que l'enjeu, c'est un enjeu capital, vital. Sans denrées alimentaires, voilà, on peut boire de l'eau pendant un certain temps, mais on finit par mourir quand même, quoi. Donc on pourrait dire que la Phénicie est donc économiquement dépendante des États gérés par Hérode qui lui fournissent l'essentiel pour vivre au jour le jour. Et bien sûr, ça met en péril aussi leurs intérêts commerciaux, parce que plus d'échanges, pas de quoi se nourrir, etc. C'est pas facile pour des gens qui ont l'habitude de commercer un peu partout dans le monde. D'où leur empressement, je pense, à vouloir trouver une solution. Voilà. Maintenant, les deux seules hypothèses qu'on peut tirer de ce qui se passe là sont les suivantes.
Oui, parce que ça n'explique pas pourquoi Hérode est furieux.
Alors, justement, deux hypothèses. Soit Hérode a refusé de commercer avec eux, sans doute à cause de fixations de prix trop élevées. Voilà. Donc, ils ne sont... trop élevé du côté phénicien, et qu'Hérode n'apprécie pas ce qui se passe, et du coup, il décide de s'adresser à d'autres ports, parce que les Juifs ne commercent pas que des denrées alimentaires. Eux, ils exportent des choses, etc., et les Phéniciens étaient un peu leurs marchands, entre guillemets. Donc si les Phéniciens commencent à émettre des prix exorbitant pour le moindre service rendu à Israël, il est probable qu'Hérode s'adresse à d'autres ports, parce que, justement, la Judée a des ports. Moindres, c'est vrai. On a quand même Césarée. Il y avait Acre, qui faisait encore partie de ce territoire. Et beaucoup plus au sud, un port vers Gaza, qui était, lui, plutôt tourné vers le commerce avec l'Égypte. Donc, Hérode aurait pu prendre des dispositions pour nuire aux Phéniciens, puisqu'ils appliquaient peut-être des prix trop élevés. Mais la deuxième hypothèse me semble bien meilleure, qui est celle qui a trait au ravitaillement. Hérode a tout simplement interdit aux populations de ces États de commercer avec les deux grandes cités. Et alors là, on ne sait pas pourquoi, dans ce cas-là. On ne connaît pas la vraie raison. Mais donc ça veut dire interdiction d'exporter les produits agricoles et d'élevage vers la Phénicie, comme un blocus, si vous voulez, hein, comme on fait encore aujourd'hui avec certains États, pour une raison que malheureusement nous ignorons. D'accord ? Dans les deux cas, de toute façon, c'est la seule chose qu'on sait, quelle que soit l'hypothèse, Hérode aurait donc agi pour mettre la pression sur les Phéniciens. Pas simplement pour nuire à leurs intérêts, mais pour les obliger à, en faisant ce fameux blocus sur le ravitaillement. Voilà, on n'en saura pas beaucoup plus hein, là-dessus.
Oui, tu as trouvé aussi que tu as trouvé le rôle de Blastus. Pourquoi il apparaît ? Est-ce que je demande ça parce que je regardais un dictionnaire qui, bon, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de coder, mais il disait que Blastus donc a joué un rôle intermédiaire. Entre Hérode et ces gens de Sidon et Tyr. Mais lui, il était en faveur de Tyr et Sidon.
Pourquoi pas
donc, il est, donc,
de toute façon, dis-toi bien que si Tyr et Sidon s'adressent à lui, c'est qu'il y a une accointance quelque part. Hein.
Donc,
pas du hasard.
Donc il voulait aller au Hérode Agrippa 1 pour lui, juste voilà, lui convaincre, mais en faveur de ces gens de Sidon. Et ça peut aussi peut-être une raison que Hérode était un peu en conflit alors, parce qu'il n'était pas un petit homme, Blastus. Donc, si réellement il est aussi inclus dans l'affaire, Hérode peut-être, voilà, il avait combien l'affaire est un peu très difficile. Je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de...
Et je pense aussi, parce que puisqu'il y a cette question de ravitaillement, je pense aussi que ça ne faisait pas du bien à la population des États d'Hérode, parce que ces gens vendaient leur production. Et donc, s'ils ne peuvent plus la vendre parce que Hérode a décidé un blocus, ça n'arrangeait peut-être pas non plus les gens eux-mêmes. Mm-hmm. Et en punissant les Phéniciens, on punit tout le monde, finalement. Parce que c'était quand même du pain béni. Je veux dire, la Galilée est à côté de la Syrophénicie. Vendre tous les produits de la Galilée ne posait aucun problème. Bien au contraire, y compris les produits d'élevage.
J'ai lu quelque part, et je ne saurais plus dire où, que Hérode aurait peut-être aussi énormément de jalousie par rapport à la prospérité commerciale des deux villes.
Ça, c'est clair.
Et qu'il aurait voulu mettre la main dessus, mais comme tu l'as bien dit, comme c'était des Romains, romaines, et que lui, il a été placé par les Romains, il ne pouvait pas scier la branche sur laquelle il était assis. Donc voilà, c'est difficile de savoir quoi exactement.
Parce que tu vois, les ports qui étaient en Judée, par exemple, sont nettement moins développés, moins riches, et surtout avec des flottilles insignifiantes. Donc si ce n'est pas des bateaux étrangers, style égyptien et phénicien, qui venaient dans ces ports, on ne fait pas vraiment du commerce non plus. Tandis que Tyr et Sidon sont vraiment depuis, alors des millénaires, les grands ports commerciaux de la côte est de la Méditerranée. C'est reconnu et connu, même archéologiquement, etc. Quoi.
J'ai une question juste pour savoir. Pourquoi on dit que ces gens de Tyr et Sidon ont donné une... Comment on dit, ils ont donné quelque chose à Blastus pour
qu'il les soutienne. Dans le grec, on ne voit pas ça. Hein.
C'est ça qui m'a... Donc, bon, je sais pas.
On peut imaginer qu'il y ait peut-être
un
cadeau.
Il était allé pour voilà, les représenter des Vaïlons. Voilà. Comme je disais, je n'ai pas eu le temps donc, dans la traité, mais je me demandais comment, pourquoi... Il n'est pas furieux parce qu'il voit que réellement Blastus, qui est un représentant de l'Empire romain, je peux dire ça. Et puis, il est aussi aux côtés de ces gens de Tyr, mais par corruption. Peut-être Hérode, peut-être il voyait, ok, moi, pour le moment, je suis seul. Bon, je croyais que Blastus pourrait m'aider pour profiter. C'est la chose de ces.
En tout cas, si tu veux, si on fait l'exégèse du texte en grec, on n'a pas vraiment une indication de rapport lié aux finances, à l'argent, qui aurait décidé Blastus à défendre ou à participer en tout cas à la défense des Tyriens et des Sidoniens. Donc on doit s'en tenir à ce qu'on sait. Maintenant, ce que tu as dit tout à l'heure, Bernard, me semble juste aussi. Hérode est quand même quelqu'un qui est très penché vers la gloriole, hein. Donc briller, etc., régner, ça c'est vraiment son truc. Hein. Donc nécessairement, si Tyr et Sidon font de l'ombre à son orgueil, il s'en prend à eux. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, d'ailleurs, on n'a pas la vraie raison, justement, tu vois, dans cette affaire. On sait juste ce qu'Hérode a fait et ce qui pose problème aux Phéniciens. Quoi.
Une dernière chose, j'ai lu aussi que les Phéniciens étaient un peuple très paisible. C'était pas des guerriers.
Non.
Cherchaient la paix à tout prix.
Plutôt des commerçants.
Voilà. Ça ne les empêchait pas d'être parfois conquis, mais...
D'ailleurs, ils ont tenu tête paisible à tous les gens, assyriens, grecs et romains, qui les ont conquis. Pas dans la violence, mais dans l'art de finalement rester indépendant, continuer à commercer, à s'enrichir, etc. Quoi. Ils n'ont jamais été totalement éliminés, en tout cas.
La Suisse.
Oui, voilà, par exemple. Ok, donc après, verset 21, et je ne sais plus à quelle question ça correspond. Oui, au jour convenu, c'était la question 5. De quel jour parle-t-on ?
Un jour marqué.
Oui,
en tout cas, il est fixé.
Fixé, marqué, convenu.
Celui que Blastus a mis dans l'agenda.
Oui, oui.
Ah, peut-être, oui, peut-être.
Pardon
Je dis celui que Blast a mis dans l'agenda du roi.
Voilà.
Ah oui, oui, oui.
Ouais, pourquoi pas. C'est une idée.
En même temps, est-ce que le contexte du verset 21, qu'est-ce qu'il nous montre, ce verset 21 ?
Que le peuple est présent.
Voilà. Oui. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que c'est...
Et que Hérode a accepté de dialoguer.
Alors, est-ce qu'on peut imaginer que c'est le début des tractations ? Ou l'inverse. C'est plutôt la fin. Donc en fait, les tractations grâce à Blastus ont eu lieu. Et là, à partir du verset 21, on dit qu'un jour, Hérode a profité d'une occasion pour sceller finalement la pacification de leur conflit et sans doute des nouveaux contrats, entre guillemets, passés entre les parties. Hein. Mais du coup, au jour convenu, qu'est-ce qui se passe ?
Là, il en fait des tonnes.
Oui, donc Brigitte a dit il y a toute la populace de Césarée, les amis, les Romains, etc.
Lui, il se présente sur le trône.
Oui. Alors, avec ses habits royaux.
Voilà, donc c'est pas rien, quoi. C'est un sacré décorum, un spectacle, encore une fois, etc.
On dirait la fête nationale.
Alors, moi, j'ai eu la chance, il y a quelques années, de visiter Césarée et de visiter surtout le théâtre qui avait été fait par Hérode le Grand, c'est-à-dire le grand-père d'Agrippa Ier. Une merveille. Une merveille qui fonctionne encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait encore des représentations théâtrales, des concerts, tellement l'acoustique est géniale, et c'est en bord de mer. Hein. Vraiment, la mer est à côté. Quoi. Et donc, on imagine bien notre cher Agrippa assis sur son trône dans le théâtre, hein, avec magnanimité. En même temps, c'est une manière...
Oui, et par contre, trône, moi j'ai regardé en grec...
C'est tribune.
C'est la tribune.
Mais même, en grec, il y a une erreur, parce que c'est tribunal. Mais, c'est encore autre chose.
Même pas que j'ai marqué ça.
Estrade, moi.
De quoi ?
Estrade.
Oui, estrade, c'est tribune. Aussi, ça. Ouais. Mais en tout cas, il est dans ses apparats, lui... Okay.
Ouais, il est là au-dessus. Il a rangé.
Alors, juste pendant que tu cherches, je dis une chose intéressante. C'est que c'est intentionnel. Hérode a choisi une fête bien particulière pour recevoir ces deux délégations et sceller finalement la paix. Une manière de montrer de nouveau son pouvoir, d'affirmer qu'il est le plus fort, qu'il est celui qui a gagné le match finalement. Parce que quand même... Les gars, ils viennent d'où ? Si vous regardez sur une carte, vous verrez que Césarée, qui est à la frontière sud, effectivement, de la Syro-Phénicie, c'est quand même à 100 bornes de tir, hein, et 130 ou 140 de Sidon. Donc ça veut dire que c'est les délégations qui ont dû venir bien gentiment à cette fiesta chez Hérode pour sceller la paix entre les parties. Et je pense qu'Hérode en profite un maximum pour montrer qui il est, pour montrer les gros bras, etc.
Voilà, oui, j'ai remarqué dans le texte grec. Et donc, to bema bematos, la première signification, c'est pas marche, et la deuxième signification, c'est tribune. Mmh. Et donc le théâtre, qui serait au théâtre, dans la tribune, quoi.
Exactement.
À la place.
Comme on est dans les tribunes du stade.
Et donc, c'est ni le trône, ni le tribunal, quoi.
Oui.
Il ne peut sûrement pas être dans la tribune avec les autres.
Hein. Non, non, pas avec la tribune, pas avec
sa tribune,
la
place.
Oui, mais
au milieu, peut-être.
Mais dans les tribunes, il y avait une place pour,
Alors,
pour
le roi. Ce qui est amusant, c'est que le grec laisse entendre qu'il est assis, et puis il commence un discours assis, tu vois. Il ne se lève même pas pour... Ah oui, c'est space, hein, comme truc. Ouais. Alors, il harangue, on ne sait pas trop qui, mais apparemment, eux, d'après le grec, sous-entendu, les deux délégations... Donc, il y a toute la populace qui est là, mais il fait un discours lié à, sans doute, aux accords qu'ils avaient, les nouveaux accords qu'ils ont passés ensemble. Et tout ce décorum nous montre que, finalement, ça se passe lors d'une fête. Une fête tout à fait régulière, tout à fait normale. Ce n'est donc pas une entrevue entre deux, trois délégations, mais manifestement... Une manière de conclure tout ça. Et alors, de manière très intéressante, l'historien Joseph, qu'on cite assez souvent à propos des actes, l'historien Joseph est très proche des informations de Luc, et il dit ceci, qu'il s'agissait d'une fête en l'honneur de l'empereur Claude. Alors, on trouve ça dans l'Antiquité juive 19, paragraphe 8. Et je cite un extrait quand même intéressant. Lui, il dit... Joseph, hein, le second jour de la fête, donc c'est déjà une fête qui dure, hein, le second jour de la fête, sous-entendu le roi, mit un vêtement fait entièrement d'argent et d'un tissu vraiment merveilleux. Puis il vint au théâtre de bonne heure, dans la matinée, et alors, l'argent de son vêtement étant éclairé par les rayons du soleil, brilla d'une manière extraordinaire et devint si resplendissant qu'un sentiment de crainte saisit ceux qui le regardaient avec attention. Donc c'est Joseph qui raconte cette histoire. Et il nous dit aussi qu'Hérode était assis dans cette tribune réservée au roi, revêtu de son habit royal et adressant donc un discours officiel. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'intervient le verset 22. C'est-à-dire cette espèce de décorum spectaculaire, plus justement à ce qu'il l'avait prévu, que le soleil, ça allait refléter sur ses habits royaux, etc. Peu importe, toujours est-il que c'est ce qui se passe. Et donc, on nous dit au verset 22, « Tandis que le peuple l'acclamait, hein, c'est la voix d'un dieu et non d'un homme. » Alors, en grec, ceux qui disent ça, c'est vraiment la foule. Hein. C'est démos en grec, le petit peuple, la foule. Ce n'est pas nécessairement les délégations, ni les invités, ni les Romains. Comprenons peut-être tout simplement les participants. Et vraisemblablement, il y a dans cette assemblée plus de païens que de juifs. Hein. On est à Césarée, quoi. Hein. Alors, intéressant de nouveau de faire un lien avec Joseph. Parce que comme Luc, Joseph rapporte les propos des fameux adulateurs d'Hérode qui en font un dieu. Il dit « Sois-nous propice » donc c'est les gens qui s'adressent à Hérode « Sois-nous propice, jusqu'ici nous t'avons vénéré comme un homme, mais nous reconnaissons désormais que tu es plus qu'un mortel. » Or, il est clair que pour les Romains, ce type de flatterie ou d'honneur, je ne sais pas ce qu'il faut dire, était plutôt réservé à César. Ça fait de l'ombre un petit peu aussi aux Romains, tout ça. Donc, tant sur le plan religieux que politique, Agrippa Ier aurait dû décliner ses éloges. Et il ne le fait pas, ni vis-à-vis des Romains, ni vis-à-vis de sa religion. On a vu qu'il était le grand défenseur la fois passée, le grand défenseur des pharisiens, entre autres, hein, bon voilà, il aurait dû en tirer des conclusions lui-même.
Mais en même temps, c'est Paul, quand il est à Athènes, qu'on prend pour un dieu.
Oui.
Ben lui, il décline, quoi.
Oui, oui. Et Pierre aussi, on a vu ça, n'est-ce pas?
Oui, c'est
avec Corneille. Corneille est là avec des salamalecs du style « T'es un envoyé des dieux », quoi, tu vois. Et puis Pierre lui dit « Non, non, moi, je ne suis qu'un homme. »
Donc, ils ont assez facilement, ils prennent les gens pour les dieux, quoi. Ouais, bon, c'est vrai qu'en Égypte, les pharaons, c'était...
Ben, c'est d'autant plus vrai qu'on est sans doute, comme je le disais tout à l'heure, plus face à une foule de païens qu'une foule de croyants ou de juifs messianiques, hein. Donc voilà, il se trouve que l'amalgame est vite fait, et c'est la raison pour laquelle Dieu intervient. Donc au verset 23.
Même instant, elle est subie.
Oui, c'est assez immédiat, quoi. Et de nouveau, alors, en grec, c'est un ange du Seigneur. Dans nos versions, les trois quarts du temps, c'est l'ange du Seigneur. Enfin, on ne va pas se battre là-dessus. Hein. Frappa Hérode pour n'avoir pas rendu à Dieu la gloire. Et, alors, je ne sais pas comment c'est formulé dans vos textes, dévoré par les vers, il expira. Donc ça, c'est ce que Luc déclare. Hein. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion ? Pourquoi l'ange intervient ?
Ben oui, c'est ça.
Il y a des tas d'autres fois où Dieu laisse faire. Je pense à Jézabel, par exemple. Il a fallu beaucoup de temps avant qu'elle paye.
Parce que là, il laisse dire qu'il est un dieu.
Et lui, il sait qui est Dieu.
Ouais.
Tandis que parfois, les païens ne savent pas qui est le vrai Dieu. Mais là, il y a déjà un côté blasphématoire à ce qui se passe en réalité. Or, la blasphème dans l'Ancien Testament, c'est grave. Blasphémer.
Comment Hérode, c'est un païen quand même.
Non, non, il est demi-juif. Hein. Rappelle-toi ce qu'on t'a vu les dernières fois. Il défend le courant judaïque le plus strict, notamment les pharisiens. Il participe aux fêtes de Pâques et tout le bazar. Hein. Alors, c'est peut-être politique. Hein. On ne sait pas si c'est un vrai, vrai, vrai croyant. Mais il est demi-juif, donc il n'était peut-être même pas obligé de faire tout ça.
Demi-juif, mais ça veut dire quoi, demi-juif?
Ben parce qu'il a du sang juif et du sang iduméen. Il n'est pas un vrai juif, quoi, à 100%. C'est d'ailleurs pour ça que les Romains placent leurs pions. Ils ne sont pas bêtes non plus, hein, quelque part.
Donc, s'il était juif et il voyait ce que la foule disait...
Il aurait dû réagir.
Il devrait donc... Il devait réagir, parce que...
Et en même temps, réagir par rapport à César aussi.
Pardon, oui, mais alors pourquoi ne le fait-il pas?
Ben oui, c'est ça. Donc, il y avait deux raisons de le faire. Hein, mais bon, parce que ça lui monte à la
tête. Ah oui, bien sûr, c'est un orgueilleux, ce type.
Donc, on lui a appelé Dieu, il a accepté.
Oui, tout à fait. Hein, le grand défenseur de la foi juive, hein, qui s'en prend à l'Église, accepte quand même de se faire traiter comme un dieu. Il ne peut pas ignorer qui est vraiment Dieu. Et pourtant, il le fait. Et donc... Pour reprendre le vocabulaire de David, il pêche gravement contre l'Éternel en acceptant de porter l'étiquette « tu es pas nécessairement Dieu, mais un Dieu,
Dieu ».
La bonne attitude, effectivement, aurait été de repousser gentiment, politiquement parlant, ces acclamations plutôt sacrilèges, plutôt idolâtres.
En même temps, il avait quand même tout le décorum.
Oui, mais son décorum de roi, c'est une chose, mais de là accepter de se faire appeler Dieu, de se faire traiter comme un Dieu, ben, on peut dire qu'il signe un peu son arrêt de mort, le gars, quelque part, quand même. Lui-même a mis le doigt dans l'engrenage.
Il n'y a quand même pas que ça, quoi. Il est quand même responsable de la mort.
Oui, tout à fait. Donc, voilà, Dieu en a peut-être ras-le-bol d'Hérode et de ses comportements.
Il cherche Pierre, il veut le trouver.
Il a déjà décapité, fait décapiter Jacques.
Il a quand même des raisons.
Mais ça, il le faisait pour gagner la confiance aux Juifs.
Oui.
C'est la persécution.
Oui.
Parce que, voilà.
Mais Dieu ne laisse pas.
C'est pour ça que.
C'est juste pour lui, vous voyez que c'est comme Paul.
Politiquement.
Religieusement, il croyait qu'il est en train de faire quelque chose.
Bonne chose.
Approuve.
Ouais.
Parce que Jacques et même Pierre, dans la religion juive, ils étaient connus comme les gens qui sont. Ils sont blasphémés, qu'ils ont rejeté le vrai Dieu.
Ouais.
Ils enseignent des hérésies. Alors pour lui, il faisait ça pour chercher la faveur des Juifs.
Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'apparemment, dans la foule, il y a des gens qui sont plutôt pour ce côté divinisation du roi Hérode et d'autres moins. Et alors, Joseph nous raconte de nouveau une chose intéressante, je trouve. Joseph s'indigne du comportement d'Hérode et il dit textuellement, les flatteurs, donc lui, il n'est pas dupe, hein, les flatteurs crièrent, l'un d'un endroit, l'autre d'un autre, non toutefois pour son bien, qu'il était Dieu. Là-dessus, le roi, c'est lui qui parle, hein, là-dessus, le roi ne les reprit point et il ne repoussa pas loin de lui cette impie adulation. Donc c'est marrant, l'historien Joseph, lui, il fait la bonne analyse.
C'est ça.
Et il dit, mais ça aurait pas dû se passer comme ça. Ça, c'est pas normal, quoi. Et ça nous amène à l'histoire des vers, je sais pas ce que vous en avez pensé. Donc Luc précise la cause de la mort, n'est-ce pas ? Non, c'est l'ange, bien entendu, mais l'ange lui a fourgué une bonne maladie, une maladie mortelle.
Ah oui, c'est vrai, vers solitaire. Je sais pas quoi, mais bon.
Alors, est-ce que ça existe, ces maladies-là ?
Est-ce, manger
est-ce
par
qu'on
les
peut
vers
mourir
Bah oui, mais bon moyen. Merci. Ça doit exister.
Ça peut arriver d'avoir des vers, mais on n'en meurt pas nécessairement.
Une maladie comme le vers solitaire. Il te bouffe, mais il te mange de l'intérieur.
Alors, j'ai quand même été vérifié médicalement parlant. Alors, il existe des maladies, en moins deux, qui se présentent sous forme de kystes. Alors ici, kyste hydatique, bon, on ne va pas faire un cours de médecine, mais c'est un kyste qui se place au niveau du foie, donc des vers, des vrais vers, liés à l'alimentation, mais liés notamment à un parasite du chien. Voilà. Donc, et plus tu vas vers des pays où il y a beaucoup d'élevage, style mouton, etc., etc., plus on peut avoir cette problématique. Et si ce n'est pas soigné, parce qu'en plus c'est une maladie qui se cache, qui peut se déclarer 5 ans plus tard, donc on peut être contaminé, ne pas le savoir, ne pas en souffrir, et tout d'un coup, on souffre. Et donc ça entraîne des douleurs abdominales intenses, des nausées, des vomissements. Et Joseph rapporte alors ceci, ben, d'autres faits. Il dit, donc suite à l'histoire de l'adulation, il précise, alors il fut pris de maux d'intestin et mourut 3 jours plus tard. Or, selon les versions, c'est 5 jours plus tard, 3 jours plus tard. En tout cas, les historiens pensent qu'il n'est pas mort là dans la tribune. Il va même jusqu'à préciser, lui, qu'il a été ramené au palais, soigné, puis qu'il est quand même mort. Mais en tout cas, il précise aussi qu'Hérode a compris immédiatement qu'il allait mourir, d'après Joseph. Hein. Et il avait 54 ans, Hérode Agrippa Ier. Donc c'est intéressant de voir que ce que Luc nous raconte, c'est aussi ce que raconte Joseph, à quelques détails près, puisque nous, on peut comprendre le « il expira » comme « voilà, il est mort dans l'heure, la claque ». Bon, ça paraît ne pas être ça, peu importe. Mais en tout cas, la réalité, c'est qu'il est mort d'une maladie terrible, hein, quelque part.
C'est normal, Luc, c'est une narration, il n'avait pas l'air dans les détails.
Oui, c'est ça, je pense que lui, il dit, voilà, le but, c'est la fin. Quoi, hein. On pourrait presque dire, Luc dit, ah, ben le persécuteur est mort, victoire. Il est mort, malheureusement, d'une mort horrible, et si vous me permettez un peu un jeu de mots, d'une mort qui illustre un peu la gloire usurpée, c'est-à-dire la véritable personnalité du roi, une pourriture, hein, qui meurt bouffée de l'intérieur, le gars. Je le plains quand même.
Est-ce que, si tu lis aussi, Joseph, je pense qu'il a souligné comment il était vraiment dans les douleurs très, très sévères, il criait peut-être, voilà. C'était pas juste, voilà, il était malade, donc. Dans l'estomac et puis les morts après. Il était vraiment dans les
douleurs. La souffrance, bah oui, dans
tout de suite.
Et puis peut-être, bon, si tu lis, c'est le mot agonie en anglais, je ne sais pas s'il y a en français.
Agonie.
Mais
ouais.
Il criait, il. Donc voilà, sa dignité vraiment, voilà. Il criait comme s'il y a quelque chose de dolent. Il savait qu'il allait mourir parce que. C'était très sévère.
Alors, est-ce que c'est la seule fois dans la Bible, parce que c'était une des questions que j'avais posées, je crois, qu'on rencontre cette manière de faire de la part de Dieu ? Dieu qui frappe quelqu'un. Oui, les verbes, on a déjà ça dans Antiochus Épiphane, dans 2 Maccabées, par exemple, dans les deutérocanoniques, pardon, nous raconte la même histoire. Ce gars est mort aussi rongé par les vers. Donc c'est une maladie courante, surtout dans le bassin méditerranéen de l'époque. Hein.
Ananias, c'est...
Alors on a déjà vu Ananias et Saphira dans les Actes.
Qui sont morts aussi.
Mais les gens, il y en a une flopée. Hein.
Est-ce que...
Tout le monde ne meurt pas.
Attends. Jean. Job parle de vers, mais on ne sait pas très bien s'il a été couvert de vers. Mais est-ce qu'il n'était pas rongé de l'intérieur ?
Non, c'était peut-être pas la même maladie non plus. Mais en tout cas, des hommes ou des femmes qui ont été touchés, soit par Dieu lui-même, soit par l'ange de Dieu, il y en a quand même un bon paquet.
Il y a aussi les fils de...
Les Lévites, là.
De Lévites, oui.
Je vois ce que tu veux dire.
Oui.
Fils d'Élysée. Fils d'Élysée,
oui. Fils d'Élysée, donc.
Ils ont aussi été...
C'est à Lévitique 17.
Bon, on peut commencer par nos patriarches Jacob, hein.
Oui,
il était frappé à la Pâque, à la hanche, boum. On a quoi ? On a les nouveau-nés d'Égypte, on a Myriam frappée de lèpre, on a... On a la peste en Israël à cause de David qui a fait un dénombrement qu'il ne devait pas faire, etc.
Les hommes engloutis dans la terre aussi.
Oui. Et on a dans 2 Rois, on a l'histoire de l'armée assyrienne. On précise 185 000 morts pendant la nuit. Bon. On a la lèpre du roi Ozias. On a la folie passagère de Nebuchadnezzar dans Daniel 4. Enfin bon, voilà. Donc, je ne suis pas exhaustif. Hein. On aurait pu trouver plein d'autres textes, à mon avis, qui montrent qu'à un moment donné de l'histoire d'un homme ou d'une femme, Dieu juge qu'il faut marquer les choses. Alors, ce n'est pas toujours la mort. Hein. On l'a vu, Myriam, elle a la lèpre pendant 7 jours. Puis après 7 jours, elle est guérie. Pouf, elle réintègre son rôle de sœur d'Aaron et de Moïse et de prêtresse, de prophétesse, etc. Bon, donc on voit qu'à certains moments, Dieu met un temps d'arrêt. Il marque la vie de quelqu'un pour que ça change. Et puis il y en a d'autres où la coupe est pleine. Et c'est le cas d'Hérode ici, où il faut mettre un terme à la folie d'Hérode, finalement, pour peut-être préserver l'Église. Parce que, comme je vous l'avais dit la fois passée, on ne sait pas ce qui aurait pu lui passer par la tête, surtout après l'échec cuisant de l'évasion spectaculaire de Pierre. Quoi. Donc là, il est peut-être plus remonté encore qu'avant contre l'Église.
Parce évidemment, que... c'était pour ça qu'il est furieux.
Ah, mais il est furieux. Ben, ça, c'est les pauvres Tyriens, ils vont pas payer pour Pierre. Hein, mais voilà. Sauf s'ils pensent que Pierre est caché là-bas. Non, je rigole. C'est pas, oui, c'est non, pas dans le texte.
Sur un bateau.
Bon. Ben, en gros, voilà un petit peu ce qui se passe. Et puis, notre texte, alors, se termine bizarrement. Le texte du jour. Par le verset 24, on nous dit, voilà, la parole de Dieu, cependant, croissait et se multipliait. À quoi ça vous fait penser, cette phrase ?
Mais on l'a déjà eu.
Oui, on l'a déjà eu, effectivement, dans les Actes, au moins deux fois.
En ayant 6, 7, et on l'aura en 19, 20.
Exact. On l'a eu aussi en 9, 31. Mais Chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a un
Mais ici, c'est surprenant parce qu'on est avec rien que des étrangers. On ne parle pas des apôtres, quoi.
Tout à fait. Donc, on peut vraiment dire que cette phrase, elle est là comme un contraste. Elle vient contraster quelque chose. C'est-à-dire, on a les images précédentes, c'est le faste, l'orgueil, la cour, le roi qui blasphématoire, etc., le persécuteur... qui meurt, mais alors, comme tu disais tout à l'heure, se livrant misérablement, non plus comme un roi, mais comme un rien du tout. Et là, il y a cette phrase qui résonne comme, vous savez, la morale des fables et des contes. Mm-hmm. On vous raconte une histoire un peu catastrophique, puis à la fin, il y a quelque chose de positif qui sort. C'est un peu le même genre de conclusion. Donc Luc veut souligner le contraste qu'il y a entre ceux qui persécutent l'Église, quelles qu'en soient les raisons, et ce que Dieu fait réellement dans l'histoire des hommes, et que finalement, la bonne nouvelle de l'Évangile a sans doute plus de puissance que la puissance des puissants. Hein, c'est un peu ce qu'il nous dit. Donc, cette parole de Dieu, parce que c'est bien ça qui est dit dans le texte, hein, cette parole de Dieu qui est tant combattue, plusieurs fois on l'a vu, depuis le début des Actes, par les pouvoirs religieux et politiques du moment, elle continue, elle, son petit bonhomme de chemin, elle continue d'augmenter et de se multiplier, on pourrait dire, envers et contre tout, l'Église de Jésus-Christ ne cesse de gagner du terrain. Exactement. Plus tu l'ennuies, l'Église, plus tu la persécutes, et malheureusement, plus elle brille. Voilà, dans son message et dans son témoignage. Ça, c'est quand même quelque chose que je trouve absolument positif et réjouissant, même si le côté martyr est moins réjouissant. Mais c'est vrai que le message de la bonne nouvelle a une telle puissance en lui-même que finalement, on peut faire tout ce qu'on veut, on ne raye pas l'Évangile de la carte. Vous savez, je pense à une époque où les communistes... notamment en Union soviétique, avaient pignon sur rue, ils n'ont jamais été capables, malgré les pires persécutions, jamais été capables d'éradiquer ni les orthodoxes, même s'ils en ont soudoyé quelques-uns, ni les autres religions, catholiques, baptistes, etc. L'Église a tenu le cap, même dans la clandestinité. Et pourtant, cette ère du communisme a duré 70 ans. Donc, sous le joug de quelque chose qui était quand même une sacrée dictature, quoi. Donc on se dit, tiens, c'est quand même bizarre. Comment l'Église fait pour... elle ne fait rien, en fait. Dieu fait. L'Église vit avec Dieu, elle est accompagnée par lui, et grâce à ça, elle continue à être témoin de l'essentiel, finalement. Et notamment de la non-puissance, de l'amour, etc., etc.
Est-ce que je peux penser, si tu penses aussi à ce passage, en voyant Hérode et Agrippa, comme un système qui est pour bloquer et arrêter l'Église à avancer, mais aussi en voyant le système, on nous parle d'un marque qui va venir dans les derniers jours, le 666 et tout ça. Mais si tu vois, le 666, c'était en grec, c'était plus qu'un nom, Nero, voilà. Donc les nombres, les chiffres présentés, les lettres, tout ça. Et c'est une de... Ça me vient dans les pensées quand tu parlais à... Tu viens de dire à comment l'Église ne peut pas être stoppée. Et c'est un passage qui te montre combien... le royaume de Dieu, même si on ne le voit pas visiblement, il est présent.
Continue.
Et une façon de le voir comme évidence, c'est que l'évangile ne peut pas être stoppé. C'est que l'église ne peut pas être stoppée. C'est pas la première fois qu'on voit ça, même dans l'Ancien Testament. On voit Pharaon comme un système qui est là pour bloquer le plan de Dieu. Et voilà. Dieu enlève, donc, et on continue à voir. Mais dans le Nouveau Testament, c'est encore pire parce que je ne vois pas seulement Hérode, Agrippa, mais aussi je vois un main du diable derrière tout ça qui cherche à bloquer, à arrêter donc, l'Église à avancer. Et je vois combien Dieu est fidèle à sa parole.
Fidèle aux promesses qu'il fait.
C'est la promesse qu'il a fait. Je bâtis mon Église et même les. La force donc le diable ne peut pas le détruire, l'arrêter. Et une fois donc quand tu te demandes où est le royaume de Dieu, qu'est-ce que Dieu a de faire, ouvre tes yeux, tu vois, rien ne peut pas arrêter son plan de rédemption. L'évangile continue et lui qui souligne la parole continue à j'aime comment Luc a dit
se répandre,
tu vois, la parole a continué et l'autre n'est plus maintenant. La parole continue. Il était une figure qui était voilà, mais il n'est plus. Alors je pense que ça encourage encore une fois comment on est dans un système dans le monde qui continue à comment stopper.
Alors, je sais pas si le petit clin d'œil, c'est le lien qu'il faut peut-être faire entre la parole d'Hérode, qu'on prend pour un dieu,
ça.
Puis la parole de Dieu, qui elle continue son petit bonhomme de chemin.
C'est ça,
c'est une façon de voir ça, et ça m'a, tant que mes pensées étaient juste.
Ce serait un bon passage à lire à Kim Jong-un.
Effectivement.
Parce que peut-être qu'un jour il mourra rongé de verre aussi, celui-là. Et pourtant, la parole de Dieu continue à progresser dans son pays.
Malgré.
C'est vrai. En secret, évidemment.
Mais
la parole fait son effet.
C'est impressionnant.
C'est dingue.
Et aussi, on a lu dans Porte Ouverte, qu'on a reçu la semaine passée, l'histoire d'une Iranienne, une jeune femme, embrigadée par son père dans sa chambre parce qu'elle était devenue chrétienne. Délivrée, ça nous a fait penser à Pierre, ce qu'on a vu la semaine passée. Délivrée d'une manière miraculeuse, qu'elle s'est retrouvée dans le nord de l'Iran, qu'elle ne savait pas très bien comment. Son père est venu la chercher, lui a demandé comment as-tu sorti, et elle ne s'est pas répondu. Il l'a ramenée, et Dieu fait encore des miracles comme Pierre, comme avec Pierre. Et il y a peut-être aussi des dirigeants de notre monde qui vont peut-être mourir rongés de verre aussi. Et est-ce qu'on devrait prier ça, Seigneur,
surtout quand il s'arroge des droits
quasi
divins.
Le nord-coréen, c'est un dieu pour le peuple. Et il y en a d'autres.
Alors, on va essayer de finir notre texte quand même. Il reste un verset. Un verset qui n'a absolument rien à voir avec ce qui précédait, avec Hérode et tout ça, mais peut-être à voir avec la conclusion, c'est-à-dire si la parole augmente, c'est qu'il y a encore du boulot, etc. Et donc on nous dit que Barnabas et Saul reviennent, sous-entendu à Antioche. Alors maintenant, c'est vrai que le grec n'est pas très clair et que certains commentateurs se disputent pour savoir s'ils sont revenus à Jérusalem ou s'il rentrait à Antioche, peu importe, encore une fois, parce qu'on ne saura pas trancher véritablement. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont terminé leur service, dit le texte. Et c'est le mot diaconie qui est utilisé en fait en grec. Hein. Mm-hmm. Ils ont fini le service qu'ils avaient, pour lequel ils avaient été mandatés par l'église d'Antioche, si vous vous en souvenez. Oui. C'est un peu comme si ce verset 25 venait boucler, enfin terminer la boucle de ce qui avait commencé en 11-29, quand ils sont mandatés pour collecter des fonds, amener de l'aide en Judée, etc. Et donc, il se trouve que Barnabas et Saul ont accompli leur mission. En tout cas, c'est une chose sur laquelle on peut être sûr dans ce passage. Et vraisemblablement, ils sont sur le retour à Antioche. Et le verset, la deuxième partie du verset, donc 25b, nous aide peut-être à aller dans ce sens, puisqu'ils ramenaient avec eux Jean, le fameux Jean Marc de la fois passée, mm-hmm. Jean surnommé Marc, c'est-à-dire l'évangéliste, celui qui deviendra l'évangéliste Marc. Hein. Mm-hmm. Donc, cette indication, elle confirme que le récit s'oriente plutôt vers Antioche, car ces deux versets, enfin ce verset 25 en particulier, lié à ce qui s'est dit en 24, ce verset 25, il vient un petit peu ouvrir grand la porte de Paul, de celui qu'on va appeler Paul très bientôt dans les Actes. C'est un peu comme si le texte s'orientait maintenant vers les païens. Voilà, hein. On a eu tous ces événements à Jérusalem. Les fonds collectés à Antioche ont été versés à ceux qui en avaient besoin à Jérusalem. Et maintenant, on va parler des païens. Et d'ailleurs, tous les chapitres qui vont suivre vont s'orienter vers le monde des païens. Et Marc, justement, alors c'est assez intéressant, le fameux Marc de Jérusalem, hein, celui de la haute société dont on a parlé la fois passée, eh ben lui, il part en mission avec son cousin Barnabas, parce que Barnabas, c'est son cousin, si vous vous souvenez ce qu'on s'est dit la fois passée, et avec ce fameux Saul, l'ancien persécuteur de l'Église, puisqu'on retrouvera Marc un peu plus loin, au 13e chapitre, verset 13, facile à retenir, et là, on voit que Marc va rentrer à Jérusalem. Donc, c'est pour ça que je dis, si là, on parle d'un Marc qui part avec Barnabas et Saul, c'est donc bien qu'ils sont sur le chemin d'Antioche, et pas sur le chemin du retour à Jérusalem, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens, d'ailleurs, dans notre histoire.
Hein? Dans son témoignage en Galate, Paul dit qu'il n'est pas directement allé à Jérusalem.
Exactement.
Il est allé en Arabie, donc voilà, dans Antioche.
Oui, avant ça encore. Mais en plus, si tu veux, et là je rejoins ce que tu es en train de dire, si vous vous souvenez bien, la collecte n'était pas faite que pour Jérusalem. Donc il est probable qu'ils ont voyagé en Judée avant de passer à Jérusalem. D'ailleurs, au moment des faits de toute l'histoire de Pierre, de son arrestation, de Jacques et tout ça, ben, ils ne sont pas là. Sinon, on les aurait mentionnés. Luc aurait profité de l'occasion pour dire « Ah ben, Saul et Barnabas étaient à Jérusalem, mais non, ils n'y sont pas. » Donc s'ils n'y sont pas, c'est qu'ils sont ailleurs. S'ils sont ailleurs et qu'on nous dit qu'ils repartent, c'est que... Il rentre à Antioche, tout simplement. Maintenant, je confesse que le grec n'est pas si clair que ça.
C'est parce que j'ai...
Ils vont où ?
Moi, je n'ai pas ça dans Darby.
Tu as quoi ?
Ben, sans retourner de Jérusalem.
Ah ben, c'est là que les commentateurs se disputent, en fait. Est-ce vers Jérusalem ou de Jérusalem ? Peu importe.
C'est une drôle de façon de Luc de terminer ce chapitre sur Hérode. De dire subitement la parole. Bon, ça on peut comprendre, mais pourquoi est-ce qu'il met Barnabas et Saul et Marc à cet endroit-là ?
Maintenant,
sans faire le lien.
Maintenant, ce qui est vrai, si tu veux, c'est qu'on aurait très bien pu arrêter, nous, la lecture au verset 24. Et puis se dire, c'est une autre histoire qui commence avec le verset 25, ce qui est d'ailleurs vrai.
Est-ce qu'on ne voit pas aussi le lien par rapport à ce que peut-être Luc avait dans ses pensées en donnant l'histoire, donc cette histoire d'eau à Agrippa pour montrer que rien n'a stoppé. Maintenant, ce n'est plus même le royaume de Dieu à Jérusalem, maintenant c'est le royaume de Dieu même. Voilà, ça continue, même ça continue à aller très loin. Voilà. Mais je pense que voilà, l'idée que Luc voulait peut-être donner encore pour montrer comment le royaume de Dieu est présent et rien ne peut le stopper, donc l'arrêter. Voilà, il montre comment l'avancement du royaume continue, l'avancement du royaume continue. Le faux roi est éliminé. Ouais. Le vrai roi continue à régner.
Voilà.
Donc, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un lien un peu.
Et de toute façon, les chapitres sont mis de manière aléatoire.
Oui, tout à fait. La numérotation, oui, que ce soit chapitre, verset, oui. Voilà. Ouais. On a fait ce qu'on a pu pour s'y retrouver.
Oui, c'est ça. Ouais, mais elle aurait pu très bien monter le chapitre 13 avant ce verset-là.
Alors, est-ce que vous avez quelques pistes d'application dans votre chapeau à partager? On en a quand même évoqué quelques-unes dans les commentaires. Moi, j'en ai quelques-unes, mais bon, je prépare, donc nécessairement, je réfléchis à ce qu'on peut tirer du texte. Mais je trouve que beaucoup de choses tournaient autour de la puissance des puissants, en nous disant finalement, la puissance des puissants, c'est zéro, c'est surfait. C'est pas la vraie puissance. En fait, il y a un peu de ça dans ce passage sur Hérode.
Et si on parle d'Hérode encore à l'heure actuelle, c'est grâce à la Bible.
Oui, entre autres.
Tout soit oublié. C'est vrai. Il est de passage aussi. Hein.
Et puis, bon, une qui me paraît évidente, c'est quand les hommes qui ne sont que créatures de Dieu se prennent pour Dieu, ravissent la place de Dieu, ça a des conséquences. Et les conséquences, elles sont multiples. Orgueil, culte de la personnalité, reconnaissance indue, idolâtrie, blasphème, mensonge, abus, violence, dictature, tout ce qu'on veut. Donc voilà, ça n'a pas que du bon, évidemment, ce genre de choses-là. Ce qui était très surprenant dans le texte, c'est de découvrir qu'Hérode, qui se faisait le grand défenseur du judaïsme, finalement, il pêche contre sa propre religion, entre guillemets, puisqu'il oublie que Dieu est le Dieu unique et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Hein, c'est quand même la confession de foi de base, on va dire. Et puis la dernière chose qu'on s'est souvent dit en lisant les Actes, c'est qu'une des applications notoires, c'est quand même que la persécution de l'Église favorise sa croissance. Ça paraît être une constante, en tout cas, aussi bien dans les Actes que dans les faits aujourd'hui. Hein, si on lit Porte ouverte, si on regarde ce qui se passe dans le monde, partout où l'Église est abîmée, humiliée, persécutée, elle progresse. Parce que quand même, en Iran, mes amis, qui est quand même loin d'être une dictature soft, hein, comment l'Église fait pour subsister déjà, et surtout pour se multiplier, alors qu'il est interdit, totalement interdit de se convertir, de changer de religion, etc. Tu te dis, il y a quand même quelque chose d'extrêmement fort dans l'Évangile qui fait que des hommes et des femmes, même des enfants parfois, osent braver les interdits purement humains. Hein, au nom de quoi peut-on interdire à Dieu d'être Dieu? Et puis de le suivre, quoi.
J'imagine que si ce discours-là de la population aurait été donné à Jérusalem, comment auraient réagi les chefs juifs? Alors qu'ils ont crucifié Jésus parce qu'il se disait fils de Dieu, parce qu'il avait compris, mais il ne voulait pas, est-ce qu'ils auraient accepté, Hérode, d'accepter cet honneur? Est-ce qu'ils se seraient rendus compte que, ce foutu qui est avec nous, il se prend pour Dieu?
Exactement.
Et, bon,
peut-être que... Je pense qu'il l'aurait lâché, en tout cas.
Il aurait peut-être refusé cet honneur, vis-à-vis des Juifs, peut-être, j'en sais rien. En même temps, ça montre que la simple religion, si elle n'est pas fondée sur Dieu, sur le trône, on est prêt à accepter n'importe quoi.
Tout et n'importe quoi. Ce qui fait d'ailleurs le bonheur des sectes. Hein. Ce sont des systèmes religieux, c'est pas la foi. Donc nécessairement, on voit qu'on peut manipuler beaucoup de gens par la puissance d'un système.
Si je sais aussi à s'identifier moi-même dans le texte, je sais pas. En commençant, j'ai pas vu ça, mais aussitôt qu'on partage, c'est un texte qui t'invite à t'examiner vraiment profondément, parce que aussitôt que tu enlèves Dieu, donc tu enlèves Dieu dans sa place dans ta vie, tu te mets.
Ben oui, inévitablement.
Donc tu remplaces Dieu. Donc, on s'est dit que tu le pousses dans leur place, mm-hmm. parce qu'il nous a créé pour sa gloire, c'est la Bible. Mm-hmm. Mais aussitôt que nous nous détournons de ça, nous nous tournons à nous-mêmes, nous devenons Dieu de nous-mêmes, nous faisons la même chose qu'Hérode a fait. Mm-hmm. Alors, pourquoi Dieu accepte que je continue à vivre? Hérode a fait.
Tu veux dire que quand on fait quelque chose de bien et qu'on pense que ça vient de nous.
Ah oui, donc si nos yeux arrêtent de voir la gloire de Dieu qui est manifestée en Jésus-Christ, directement, mm-hmm. ça commence à voir nous-mêmes. Nous devions au centre de notre vie, nous devons au centre de ce qu'on fait. Et on cherche la gloire à nous-mêmes.
Il y a des petits dieux comme
nous commençons à devenir dieux de nous-mêmes. Nous devenons donc indépendants. Nous disons Dieu, nous pouvons régler les choses, tu vois. Donc que nos yeux vraiment arrêtent à voir Jésus-Christ, arrêtent à voir Dieu. Directement.
Si le sens de notre vie n'est pas là,
exactement,
alors le sens, on prend un autre sens.
Et je vois ça et combien alors ça m'amène à encore méditer aussi à réfléchir sur ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Mm-hmm. On a parlé de ce qui s'est passé dans ce mal et l'autre, mais aux autres, dans l'Ancien Testament, que Dieu n'a pas voulu qu'il continue à vivre, à cause de sa gloire aussi, qu'il a été, pas bien réflecté ou bien présenté, et Dieu interdit directement. On parlait à deux fils d'Élisée, Dieu n'a pas accepté qu'il continue à vivre. Combien c'est un Dieu qui est saint, qui est amour, mais aussi qui ne peut pas tolérer que sa gloire soit, comment dire,
affectée, touchée, abîmée.
Et on le fait chaque fois. ça m'amène à voir combien en Jésus-Christ, alors, il a versé cette colère mm-hmm. qu'il a montrée à Hérode. Mais on peut dire aussi que tout ce qui croit en Christ, c'est vrai, peut marcher dans cette assurance que Dieu les accepte, même s'ils ne méritent pas. Ils méritent ce qui arrive à Hérode, parce qu'on fait la même chose. Si tu veux, en bonne définition du péché, c'est ça. On détourne de Dieu et on se tourne en nous-mêmes. C'est ça. Et c'est ça la définition du péché. On veut notre désir, on veut notre chose qui. On veut chercher notre bonheur ailleurs de Dieu. Et puis voilà, on tombe dans le même péché.
Et là, c'est encore.
Et voilà, donc, je sais pas, mais ça m'aide à réfléchir encore à un Dieu qui m'aime, mais qui veut que, je vis pour sa gloire.
Alors, next time. Oui. Vous vous rappelez que pendant deux semaines.
Oui, tu l'as écrit.
Voilà. Ah non, mais bon, c'est important.
Tu l'as bien écrit. Okay. Tu l'as bien écrit.
Donc, j'enverrai en temps voulu le questionnaire suivant pour le passage suivant. Donc, on attaquerait les 12 premiers versets d'acte 13, que j'ai intitulé, sans trop me fatiguer, l'évangélisation de Chypre. Donc on va voir que nos amis vont être convoqués par le Saint-Esprit pour partir en tournée, et qui commencent leur tournée par l'île de Chypre.